Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie.
Notre rencontre quotidienne, c'est une conversation à trois voix avec notre invité. Ce midi, il est réalisateur. Au début des années 2000, il s'est imposé comme une figure du documentaire français avec le succès de son film « Être et avoir » qui racontait, on s'en souvient tous, le quotidien d'un maître d'école dans une classe unique d'Auvergne. Ce mercredi, il revient au cinéma avec le deuxième volet d'un triptyque sur la psychiatrie. Après « Sur l'Adamant », sorti l'an dernier et couronné d'un ours d'or à Berlin, le cinéaste éclaire un autre aspect de la prise en charge des patients en posant ses caméras dans deux unités de soins d'un hôpital francilien.
Bonjour Nicolas Philibert.
Bonjour.
Bienvenue dans les Minutes Culture.
Merci beaucoup.
Nicolas Philibert, le titre de ce deuxième volet, puisqu'il y en aura un troisième, on en parlera bien sûr, c'est Averroès et Rosa Parks, les titres, les noms de ces deux unités de soins donc de cet hôpital francilien. Vous aviez déjà tourné en 1997 un documentaire qui s'appelait « La moindre des choses », déjà sur la psychiatrie. Qu'est-ce qui vous attire tant dans ce sujet? Est-ce que vous avez un lien particulier avec cette spécialité médicale?
J'ai presque envie de vous reprendre parce que c'est pas la moindre des choses, comme les films que j'ai tournés plus récemment sont pas des films sur la psychiatrie, mais en psychiatrie. Et c'est une nuance qui m'importe parce que je ne fais pas des films à partir d'un discours, d'un message, d'un vouloir dire, mais plutôt dans le désir d'aller à la rencontre de tel groupe, tel lieu, telle communauté, tel collectif.
On va reparler, Nicolas Philibert, de votre rapport, effectivement, comment vous considérez le tournage, comment vous allez à la rencontre de ces personnes que vous filmez, mais sur cette thématique-là, alors, est-ce qu'il y a chez vous quelque chose qui vous pousse à aller rencontrer des soignants, des personnes qui souffrent d'un trouble, par exemple?
Sans doute. Ce film dont vous venez de parler, La moindre des choses, qui est un film lointain, a été pour moi une expérience humaine et une expérience de cinéma vraiment extrêmement forte, qui ne m'a pas laissé complètement indemne. En tout cas, c'est quelque chose qui n'a cessé de m'accompagner toutes ces années, sans forcément y penser chaque matin, mais parce que le monde de la psychiatrie, c'est un monde qui ne cesse de questionner, de donner à réfléchir, de dérouter, de déranger, et qui nous parle de, qui est une loupe sur notre société, sur le monde, sur la violence du monde, sur l'âme humaine, sur nos tourments, et d'une certaine manière, c'est extrêmement stimulant. Et j'ajoute que quand on est en psychiatrie, on est face souvent à l'imprévu. Et quand on est comme moi, un cinéaste qui s'intéresse, qui fait des films documentaires, on est friand de ça, de l'imprévu, de la surprise. Pourquoi je fais pas des films de fiction? Peut-être parce que, quoique là c'est discutable, mais...
On en discutera.
parce que l'idée de faire un film à partir d'une chose écrite, programmée, prévue, trop, déjà sur des rails, me plaît pas, m'attire pas. En revanche, quand on fait un documentaire, on est confronté perpétuellement aux accidents, à l'imprévu, au hasard, et ça, c'est, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau.
Et à la remise en cause aussi permanente, ce qu'on ressent d'ailleurs aussi quand on regarde Averroès et Rosa Parks, parce qu'on se laisse surprendre par un franc-parler, par des situations parfois qu'on peut juger absurde, qui nous déroute. En tout cas, vous nous emmenez à Saint-Maurice, donc au sein de l'hôpital Esquirol. L'unité de soins Averroès est au rez-de-chaussée et Rosa Parks, c'est à l'étage.
Déjà que dehors, pour nous, c'est irrespirable. Alors, si on, à l'hôpital, on ne peut pas respirer, on est foutu, quoi.
Vous savez, c'est chez Nietzsche, il y a la force vitale. La force vitale.
Moi, ce que je cherche dans ma vie, c'est Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Mon sauveur. Le reste, pour moi, ça n'a pas d'importance.
Je sais qu'il va falloir que j'ai un suivi et tout, mais... Juste... moins se rentrer sur la psychiatrie, quoi, parce que, enfin...
Est-ce que vous pouvez nous parler de vos projets futurs ? Qu'est-ce que vous voyez ? Comment vous voyez un peu les choses par la suite ?
Les projets ? À partir du moment où ça va bien, qu'est-ce que tu vas bouger le traitement ? C'est justement là qu'il faut laisser le traitement, espèce d'idiot de psychiatre de...
Ok, c'est bon, c'est fini. C'est fini.
La bande-annonce Nicolas Philibert de Averroès et Rosa Parks, ça sort ce mercredi 20 mars dans les salles. On s'interroge donc, j'ai dit que c'était un triptyque, il y a eu un premier volet qui s'appelait Sur la Damon, c'était l'an dernier, cette péniche sur la Seine, centre de jour d'accueil de ces adultes qui souffrent de troubles psychiques, et j'ai eu l'impression, puisqu'il y aura un troisième volet dont on parlera peut-être, mais que vous avez tiré un fil. Et puis, il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup de rencontres, et que vous avez voulu poursuivre ces rencontres. En fait, dans Adamant, dans Sur l'Adamant, vous avez rencontré notamment François et Olivier, si je ne dis pas de bêtises, oui. Que vous avez ensuite suivi dans cet hôpital. C'était simple pour vous, en tant que cinéaste, d'entrer avec des caméras dans un lieu qui renferme des parcours de vie, des choses très intimes, puisqu'on assiste à ces entretiens qu'on a entendus dans la bande-annonce.
C'était pas simple, c'est jamais simple. Et j'ai envie de dire, tant mieux. Heureusement que on ne rentre pas comme ça dans une unité de soins psychiatriques. Simplement, comme ça, ça demande infiniment de précautions, de délicatesse. Il s'agit d'un lieu de soins et de souffrance. Donc, la souffrance, c'est pas un spectacle. Il faut du coup prendre tout un tas de précautions. Il se trouve que le tournage sur l'Adamant se passait bien et donc ça m'a aidé. Et puis le film que j'ai tourné il y a longtemps, qu'on a évoqué tout à l'heure, La Moindre des Choses, c'est un film qui a énormément circulé dans le monde de la psychiatrie et ça m'a servi un peu de carte de visite parce que c'est un film que j'ai fait avec beaucoup de scrupules pour ne pas tomber dans le pittoresque, pour ne pas tomber dans le folklore de la folie, ni dans le romantisme de la folie. Ah, les fous, entre guillemets, sont tous géniaux. Non, non. Et tout ça m'a aidé à obtenir l'autorisation de faire ce deuxième film au sein des unités Esquirol, Averroès et Rosa Parks, à Esquirol. Et puis un troisième film, on en parlera peut-être après. Voilà, j'ai eu envie, au fond, de... On parlait de l'imprévu tout à l'heure. Ben, justement, ces deux films suivants n'étaient pas du tout prévus. Et c'est en tournant sur l'Adamant que l'idée a surgi d'en faire un autre, puis un troisième. Ça répond à l'envie d'élargir un peu le champ. L'Adamant, c'est un centre de jour, c'est pas un centre de loisirs. On est en psychiatrie. Et en élargissant un peu le champ, je voulais montrer que cette structure fait partie d'un ensemble plus grand. Le pôle psychiatrique Paris-Centre, qui accueille les patients des quatre premiers arrondissements de Paris. Pôle dans lequel les patients circulent. Un patient peut être le matin au CMP, Centre Médico-Psychologique, pour une consultation, aller l'après-midi sur l'Adamant pour participer à un atelier ou prendre un café, être un peu dans cette ambiance-là. Un autre patient peut être hospitalisé et en même temps aller sur l'Adamant parfois. Bref, il y a une circulation des patients, des soignants, et me semble-t-il essentiel de montrer cette circulation, cet ensemble.
Le documentaire s'appelle Averroès et Rosa Parks, du nom en fait hein, de ces unités.
Oui.
Mais le premier personnage, si je puis dire, dans votre documentaire, c'est cet hôpital que l'on voit avec ce premier plan de drone. C'est un hôpital qui s'appelait auparavant, qu'on appelait auparavant l'asile de Charenton.
Oui.
Évidemment, aujourd'hui, on n'utilise plus ce terme, mais rien que sa forme, son architecture, il a quelque chose, et en même temps, de très géométrique, de très quadrillé, qui fait penser effectivement à l'enfermement, mais aussi quelque chose de cette verdure qui est présente aussi, et ce côté un peu apaisant. Je ne sais pas si vous l'avez vous aussi vu comme cela.
Oui, tout à la fois parce que le bois de Vincennes est tout proche, mais aussi et surtout parce que vous l'avez dit, ce lieu très quadrillé, il y a des carrés comme ça, chaque unité est une sorte de carré autour d'un patio, et ces patios sont arborés. Il y a de l'herbe, des fleurs quelquefois, des arbres, et c'est drôlement important. Et j'en profite pour dire que ce lieu est voué à être vendu au privé. L'hôpital, du coup, serait hébergé ou il y a un projet de construire un immeuble moderne, fonctionnel, etc. Et on voit bien que ça peut être... ça peut être bien pire que ce lieu avec ses colonnades et ces carrés d'herbe et de verdure au fond.
Vous disiez, Nicolas Philibert, c'est normal de ne pas pouvoir rentrer aussi facilement dans cet hôpital, dans ces unités de soins. Et en même temps, votre documentaire est très précieux parce qu'il nous montre des entretiens. C'est ça la matière, si je puis dire, si on parle un peu techniquement, de votre documentaire, des entretiens en tête-à-tête entre des patients et des soignants, qui cette fois-ci sont clairement identifiés, hein, qui est qui, ce qui n'était pas le cas sur l'Adamant, mais voilà, on sent qu'on est dans un endroit au plus près des personnes, dans un endroit aussi d'intimité, puisqu'ils nous racontent leur parcours, ils nous racontent leurs difficultés, on se rend compte, enfin en tout cas, on écoute leur discours, avec parfois des problématiques très, très différentes. Quelle est la volonté de leur donner comme ça la parole ?
La parole des patients en psychiatrie, c'est une parole qui est qu'on entend rarement, qui est souvent rendue inaudible parce que ces personnes-là sont en général sont parfois enfermées, sont en tout cas très marginalisées dans notre société quand elle n'est pas stigmatisée. Toutes ces personnes souffrent de ça, de cette mise à l'écart, de cette mise au rebut, du regard soupçonneux qui pèse sur eux, sur elles. Bien souvent, les personnes qui ont des troubles psychiques sont, je dirais, regardées de biais comme étant possiblement agressives, violentes, dangereuses. Elles en souffrent et... une des premières idées de ce film, c'était tout simplement donner à entendre ces paroles et d'essayer de déconstruire un peu les clichés, les représentations. En effet, vous l'avez dit, le film repose sur, pour l'essentiel, sur des entretiens en longueur. La parole se déplie longuement, tranquillement. Elle se déplie dans le film et elle se déplie dans ses entretiens. C'est drôlement important aujourd'hui parce que cette parole, elle est menacée. Ici, on est dans un lieu qui est le lieu de la parole, de l'échange par excellence. Et c'est pour ça que j'aime tant la radio et cet endroit où on est aujourd'hui. J'y ai fait un film il y a bien longtemps.
En 2013.
Mais oui.
Mais... Il y a 10 ans, ça va. C'était il n'y a pas si longtemps que ça.
Voilà. Mais... voilà, ce film Averroès et Rosa Parks est une autre forme de manière de célébration de la parole. Ici, pour m'en montrer la dimension thérapeutique, montrer comment ces soignants, très à l'écoute, essayent d'accueillir la parole singulière de ces personnes, essayent d'accueillir leur souffrance, de les aider parfois à la reformuler, de les aider à rebondir, de les aider à trouver eux-mêmes l'élan, les appuis qui vont leur permettre de tenir dans la vie. On vit dans un monde extrêmement violent. Vous le savez sans doute, mais les chiffres de fréquentation, si j'ose dire, des CMP en psychiatrie s'est multiplié par 2, 2,5 depuis la pandémie, notamment chez les jeunes. Et on est aujourd'hui dans une sorte de paradoxe qui veut que il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aller parler, d'être écoutés, etc. Et de moins en moins de soignants, de moins en moins de lits, de moins en moins d'infirmiers, d'infirmières, d'aides-soignants en psychiatrie, de moins en moins d'attractivité pour ce monde, ce milieu, tout simplement parce que celles et ceux qui voulaient faire ce métier, qui veulent faire ce métier, ne trouvent plus de sens dans ce qu'ils font.
Ils n'ont plus les moyens.
N'ont plus les moyens, n'ont plus le temps. On ne leur donne plus le temps d'écouter les patients, de construire quelque chose, de construire un atelier, de construire un lien, tout simplement.
Nicolas Philibert, pourquoi vous n'avez pas choisi d'être documentariste pour la radio ? Parce que vous parlez de la parole. Vous avez écouté la bande-annonce à l'instant en disant « ça rend bien à la radio », vous voulez filmer la parole. Qu'est-ce que ça apporte, l'image, par exemple, pour ce genre d'entretien ?
Vous savez, quand j'ai fait en 2013, il est sorti en 2013, mais quand j'ai tourné ce film, quand j'ai eu envie de faire un film à la radio, au même moment, je me suis dit « mais c'est idiot, faire un film sur la radio ». Ce qui est beau dans la radio, c'est précisément l'absence d'image. Il n'y a pas d'image et du coup les images, on se les fabrique. Quand on écoute les voix à la radio, on imagine la tête des gens qui parlent, on imagine les lieux où tel reportage nous entraîne. Bref, la radio est un média qui a une puissance qui ouvre l'imaginaire d'une manière extraordinaire. Donc à quoi bon mettre des images ? Et puis finalement, dans un deuxième temps, je me suis dit, mais voilà le défi au fond. Comment essayer, comment faire un film à la radio, donc des images, sans détruire cette dimension-là, sans l'anéantir, sans la contredire. Eh bien, au fond, filmer la parole, c'est filmer et c'est mettre sur le devant de la scène tout ce que la transcription écrite efface, à savoir les silences, les hésitations, les exagérations, les gestes, les mimiques, les regards, les corps. Oui. Quand j'ai filmé ici, j'ai filmé comment les producteurs des émissions soutiennent le regard des invités, comme vous le faites en ce moment avec moi. Et c'est beau à voir, cette chose-là. Quand on se contente d'écouter, on ne le sait pas toujours. Il se passe des choses très visuelles, au fond, quand on filme la parole, l'échange, l'écoute. Et là, dans Averroès et Rosa Parks, il en va de la même chose. Les regards, la manière d'orienter éventuellement la conversation, d'accueillir, c'est ça que j'ai cherché à filmer.
Et de montrer aussi les lieux où cette parole s'échange, parce que vous parliez aussi de bâtiments qui va être remplacé, qui va être rénové. Nicolas évoquait la verdure. Ça, c'est important de le voir pour comprendre où ça se passe, en fait, où ont lieu ces échanges.
Les lieux sont extrêmement importants pour chacun de nous. L'Adamant, si vous vous souvenez, c'est un centre de jour exceptionnel, non pas tant par ce qui s'y passe, quoique il y a une équipe très dynamique, c'est un lieu extrêmement effervescent, ouvert sur le monde, etc. Mais il y en a d'autres centres de jour où, dans lesquels on fait des ateliers, on fait toutes sortes de choses inventives, etc. En revanche, l'Adamant, c'est un lieu qui est cette structure flottante sur la Seine, la proximité de l'eau, l'architecture, ces volets qui s'ouvrent comme des poumons, le bois, les matériaux, les grandes baies vitrées. C'est un lieu qui a quelque chose lui-même d'apaisant, d'un peu thérapeutique déjà. Quand on est dans un lieu un peu glauque, comme beaucoup de lieux en psychiatrie, un peu glauque, avec des murs, des serrures, des verrous, etc. Ben on est moins bien, bien sûr. On est, mais pour tout un chacun, ça joue énormément.
Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie.
Je crois que la fonction du cinéaste, elle rejoint la fonction de tout artiste dans la réalité. Il est un de ceux qui renvoie aux autres une image d'eux-mêmes et qui, en s'interrogeant, soit sur eux-mêmes, soit sur les autres aussi, pose des questions, vont à la recherche d'une image la plus véridique possible que les hommes puissent se donner d'eux-mêmes à un certain moment.
C'était la voix du réalisateur René Alliot dans l'émission Clap sur en 1974 sur France Culture.
René Alliot, mon Dieu. Je l'ai accompagné longtemps, cet homme. C'est un peu lui qui m'a fait la courte échelle, qui m'a mis le pied à l'étrier, je sais pas comment dire, mais qui m'a lancé, je lui dois énormément. Je l'aimais beaucoup, oui.
Vous avez commencé en stage avec lui. Qu'est-ce qu'il vous a appris, justement? C'est à ce moment-là, vous aviez une vingtaine d'années oui. à l'époque, c'est à ce oui. moment-là que vous vous êtes dit, je veux être cinéaste et je veux faire du documentaire?
Non, l'idée de documentaire est venue d'une manière presque fortuite. Vous savez, quand j'ai commencé, finalement, j'étais attiré par le cinéma, mais et je vais plus tard me tourner vers le documentaire, mais j'en avais vu très peu des documentaires quand j'ai commencé, peut-être 8, 10, pas plus, je savais à peine ce que c'était. Et c'est en faisant, en 77, 78, un premier long-métrage documentaire, un premier film, que j'ai pris goût au documentaire et que j'ai, surtout que j'ai commencé à découvrir que c'était pas cette forme rigide très formatée qu'on pouvait voir, mais qu'il y avait des auteurs, des démarches, des styles, des toutes sortes d'approches, que c'était un territoire aussi vaste que celui de la fiction. Alors à mes débuts, j'étais stagiaire puis assistant sur quelques films de fiction. Et je savais pas encore trop ce que j'allais pouvoir faire. L'idée de devenir réalisateur me semblait impossible. Je me sentais pas d'attaque pour ça. Je me sentais pas du tout. J'avais pas de compétences techniques. Je connaissais pas l'histoire du cinéma. Bref. Et puis finalement, Alliot, c'est l'homme qui m'a donné confiance en moi-même, qui m'a au fond dit mais tu as pas besoin de essaye d'être au plus près de tes désirs, tu peux toi aussi tu as des choses à dire.
Dans l'extrait qu'on a entendu, il nous parle de la fonction du cinéaste, de l'artiste, et il nous dit c'est de renvoyer aux autres une image d'eux-mêmes la plus véridique possible. Ça pose la question de la réalité. Alors vous avez dit vous la fiction. C'est plutôt non. Est-ce que vous avez l'impression, dans les documentaires que vous faites, de montrer la réalité?
Non, mais reparlons de cette histoire de fiction, parce que moi je dis souvent que le documentaire, faire un documentaire, c'est toujours une autre façon de faire de la fiction. On ne filme jamais la réalité. La réalité filmée, ça n'est plus la même. Et donc il y a déjà, dès qu'on filme, une part de fiction. Filmer le réel, c'est pas en rendre une image objective. Si vous mettez plusieurs cinéastes au même endroit, au même moment, vous aurez autant de films que de cinéastes. Regarder, c'est toujours projeter son propre imaginaire. Un film documentaire, il est fait par le ou la cinéaste avec à travers son parcours, son enfance, que sais-je, ses obsessions, etc. Et donc, la réalité filmée, c'est jamais la réalité brute. C'est toujours filmé, c'est toujours remodeler le réel. C'est toujours le réinterpréter. C'est toujours reconstruire les choses. Un cinéaste voudra faire des plans fixes, un autre tourner caméra à l'épaule, un troisième décidera d'y mettre des flashbacks, un cinquième va s'intéresser à tel détail tandis que les autres n'auront même pas vu les détails en question. Bref, c'est toujours une réinvention. Et donc... Alors, en effet, il ne s'agit pas de fiction au sens où tout serait écrit d'avance. Bien sûr, c'est pas dans ce sens-là, mais il y a une belle part de fiction. Godard disait le documentaire, c'est les autres, et la fiction, c'est moi. Ça veut dire c'est bien mon regard, au fond.
Et vous faites quoi, Nicolas Philibert ? Vous avez dit dans le documentaire, il y a plein de visions, il y a plein d'approches, vous venez d'énumérer plein de manières de faire du documentaire. Vous, c'est quoi votre style ?
Mon style, est-ce que j'ai un style ? Sans doute.
Bah, je vous le demande.
J'essaye, au fond, de faire des films, peut-être avec une forme de simplicité, sans fioriture. J'essaye de, à travers les... Et ça renvoie à ce que vient de dire René Alliot. J'essaye de... Qu'est-ce que c'est mes films ? Je crois que mon cinéma, c'est un cinéma de la rencontre. J'essaye d'aller à la rencontre du monde dans lequel je vis, de le comprendre un peu mieux. Je fais des films, je le dis souvent comme ça, je fais des films pour apprendre, non pas pour dire aux spectateurs quoi penser de tel ou tel sujet, de tel ou tel thème. La question du sujet, pour moi, c'est une question secondaire. Qu'est-ce que c'est que le sujet de La Moindre des Choses ? Qu'est-ce que c'est que le sujet de d'Averroès et Rosa Parks ? Je sais pas très bien. Ce sont des films, peut-être, qui ne se laissent pas enfermer dans le carcan d'un sujet. Peut-être que ce sont des films qui dépassent le cadre de leur sujet. Parce que ces films-là, on a beau être en psychiatrie, ça nous parle de nous. Il est question de nous, de notre humanité, peut-être de cette prétendue frontière entre ceux qui seraient normaux et ceux qui ne le seraient pas, de nos peurs, de nos angoisses, mais ça forme pas, c'est pas un sujet, ça. Ce sont peut-être que les lieux où je vais sont presque des prétextes chaque fois à parler de nous les humains, la maison de la radio. Quand le film est sorti, il y a des gens qui ont dit « Ah, il n'a pas montré les grèves, il n'a pas montré la hiérarchie, etc. » C'était pas mon sujet. Mon sujet, c'était la parole, l'échange, nous. Nous autres, pauvres humains, pauvres créatures, comme dit l'autre.
Nicolas Philibert, vous dites « Quand je vais dans ces lieux », ça veut dire que en tant que cinéaste, vous faites partie à un moment donné de cette réalité, de cette fiction que vous filmez, puisque oui. Vous allez dans cette salle où il y a donc le soignant, puisqu'on parle d'Averroès et Rosa Parks, et le patient, que vous leur imposez, entre guillemets, vous allez me corriger, une caméra, d'être filmé. Comment est-ce qu'on filme quelqu'un qui a des troubles psychiques ? Quel lien vous avez tissé avec ces personnages ? Je ne sais même pas si vous utilisez le terme personnage, ou si là aussi vous allez me corriger.
Je vais en tout cas vous corriger sur le mot imposé. Il n'est pas question d'imposer.
Je le savais.
D'imposer quoi que ce soit. Je propose et les autres disposent, acceptent ou pas. Et quand on me dit que on ne souhaite pas être filmé, respect total. Je n'impose pas, je ne négocie pas, je ne cherche pas à rentrer en force. Pour filmer ces entretiens, on est en psychiatrie, c'est fragile, c'est délicat, mais j'ai proposé, je dirais, à celles et ceux avec qui j'avais un bon contact, un bon lien, parfois même un peu de connivence, avec qui je passais du temps à parler, a surgi l'idée, surgissait parfois l'idée de les filmer en entretien, et alors les patients, mais les soignants aussi, étaient en droit de me dire « j'y tiens pas, moi je veux bien », etc. Ça s'est passé de façon, au fond, c'est toujours compliqué, mais dans la mesure où je n'oblige personne, je crois que les gens se sentent assez en confiance au fond. Je dis aussi toujours que voilà, si vous acceptez qu'on filme cet entretien, vous n'hésitez pas si tout d'un coup vous avez envie de dire des choses qui ne nous regardent pas. Si vous vous sentez entraîné vers quelque chose de trop intime et que vous ne souhaitez pas que ça soit filmé, vous me faites un petit geste, on s'arrête, on sort peut-être aussi. Voilà. Et ça n'est pas arrivé, mais je crois que le fait de le dire, de le répéter, crée une forme de confiance. Et je dirais même après, on peut me dire... Au fond, là, Nicolas, j'ai évoqué ma famille, ça m'embête un peu, vous voulez pas enlever ça? Mais si, bien sûr, je vais pas garder ça. Vous voyez, ça, il y a cette attention-là, en tout cas.
Est-ce qu'il y a, dans ce documentaire, ou dans les autres, un propos militant? Est-ce que vous vous engagez? Est-ce que du coup, comme vous faites partie de ce film, on le voit, les patients parfois vous regardent, vous qui êtes derrière la caméra, il y a cette connivence dont vous avez parlé. Est-ce que les combats des gens que vous rencontrez, les patients, les soignants aussi, vous les faites vôtres?
Le film est un film militant au sens où il milite pour la dignité. Mais c'est pas un film... militant au sens où il chercherait tant à dénoncer tout ce qu'il faudrait dénoncer sur la psychiatrie, qui est aujourd'hui un champ extrêmement abandonné, dégradé, dévasté. On entend dans le film plusieurs patients dire que les soignants sont débordés. Une jeune patiente le dit avec beaucoup de clarté. Elle dit j'ose à peine les déranger parce que ils courent partout. Heureusement, on nous donne des six besoins, des médicaments qu'on prend pour apprendre tout seul si vraiment ça va pas. Mais alors j'aurais pu faire un film pour dénoncer cette situation tragique de la psychiatrie. Mais j'ai considéré que c'était presque enfoncer une porte ouverte. Parce qu'aujourd'hui, on le sait. Il suffit d'ouvrir son journal, d'aller sur les réseaux, d'ouvrir la télé, la radio, pour savoir que les systèmes de santé, notre système de santé est plus que défaillant, fragile, et que la psychiatrie, il y a des tribunes chaque semaine dans la presse, que la psychiatrie va particulièrement mal. Mais j'avais pas envie d'une complaisance de ce côté-là, parce que ça peut être aussi complaisant. Je souhaitais faire quelque chose, un film peut-être plus dérangeant, plus inattendu, en donnant la parole. J'aime pas ce mot d'ailleurs, c'est pas moi qui donne la parole, mais en accueillant la parole plutôt des patients et en montrant ce travail fragile ce travail de ces soignants qui, je dirais, résistent à ce qui vient aujourd'hui fracasser la psychiatrie. Ils essayent de tenir, ils essayent de continuer à donner une place à la parole quand partout ailleurs, les patients, c'est les médicaments qui prédominent.
En vous écoutant, j'ai presque l'impression que vous vous mettez aussi dans la position du soignant. Écoutez la parole et vous écoutez. Comme on voit, effectivement, les médecins écouter leurs patients. Et d'ailleurs, dans le montage, vous me dites si je me trompe, mais j'ai l'impression que quand quelqu'un parle, vous nous montrez plutôt celui qui écoute plutôt que celui qui parle.
Je montre les deux. C'est très important de montrer je l'ai dit tout à l'heure, les regards, les mimiques, les gestes, l'écoute. Et en effet, je peux ici ou là trouver des points communs avec entre mon travail, ma façon de faire des films, qui est, oui, aussi à l'écoute, et ce travail que font les patients, les soignants en psychiatrie. Il y a quelque chose des correspondances, en tout cas.
Merci beaucoup, Nicolas Philibert, d'être venu dans les Midi de Culture. Nous parler donc du deuxième volet de ce triptyque qui n'était pas prévu, vous l'avez dit, Averroès et Rosa Parks, documentaire au sein de ces unités de soins de l'hôpital de Saint-Maurice. Et le troisième volet sortira en avril, c'est ça, au mois d'avril?
Le troisième volet sort le 17 avril et il s'appelle « La machine à écrire et autres sources de tracas ». J'ai le temps d'en dire un tout petit mot?
Je vais le dire, comme ça, oui. Ce sera comme le temps nous manque un tout petit peu. Vous suivez un petit groupe de soignants, oui. Bricoleurs, qui va rendre des services, aux patients, chez eux, une fois qu'ils ont pu retrouver un chez-soi, vivre en autonomie aussi. Et vous suivez notamment ces jeunes médecins bricoleurs qui vont aider Patrice à réparer sa machine à écrire.
Pour finir l'émission, Nicolas Philibert, nous avons choisi deux chansons, l'une en référence justement à ce prochain film, avec le mot « machine à écrire », donc une chanson avec le mot « machine à écrire », l'autre en référence à l'inverse à votre premier film, « La voix de son maître ». Laquelle des deux chansons souhaitez-vous écouter?
La première.
Oh là 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 là, je suis fatigué, je suis épuisé, éreinté, brisé. Je suis condamné à perpétuité, à taper, taper toute la journée. Oh là 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 là, prison de papier, barreau de buvard, chaîne d'encrier. Maître rouge et noir, moi j'en ai assez, de taper, taper toute la journée.
Gilbert Bécaud, La machine à écrire, Nicolas Philibert, pour terminer cette émission. Merci beaucoup d'être venu sur France Culture.
Merci.
Dans notre émission Les Midi de Culture, émission préparée par Issa Touendoy, Anaïs Isbert, Cyril Marchand, Zora Vignet, Laura Dutèche-Pérez et Manon de la Selle. Nicolas Berger est à la réalisation et à la prise de son ce midi. C'est Marie-Claire Oumabadi. Merci à tous. À demain, Géraldine.
À demain, Nicolas.
C'est sur petit clavier. Machine infernale, toi, tu te régales de taper toute la journée. Pendant que tu manges tous ces mots étranges.